Hello chers cavaliers et chères cavalières, ici Angélique. Bienvenue sur C'est pas sorcier, le podcast qui vous parle du lien cavalier-cheval. Ce podcast, il est complémentaire au blog j'entraînemoncheval.com. Avec le blog, on fait dans le concret, puisqu'on parle conseils, exercices, astuces, et on détruit même les mythes de l'équitation. Mais au final, on a les deux pieds dans la carrière. Alors qu'avec le podcast, au contraire, c'est l'occasion de prendre de la hauteur et de s'inspirer. Ensemble, nous allons interviewer des personnalités ou des experts équestres, et j'espère que nous trouverons des clés, ou en tout cas des axes de réflexion, sur le lien qui unit un cavalier à son cheval. Le but, c'est évidemment que nous progressions nous-mêmes sur le lien qui nous unit à nos chevaux. Aujourd'hui, pour cet épisode « C'est pas sorcier d'adapter son matériel », nous allons parler d'un lien cavalier-cheval qui est très terre-à-terre, puisqu'il s'agit principalement de la selle. Principalement car Eugénie, mon invitée, a commencé comme saddle-fitter, c'est-à-dire comme conseillère en choix de selle, avant d'élargir ses connaissances et ses services au matériel équestre en général. La selle, c'est le problème numéro 1 du cheval. Mal sellé, il est impacté dans sa locomotion, et comme le poids de son cavalier n'arrange rien, le voilà parfois contraint, voire entravé, voire handicapé. Le hic, c'est que la selle, c'est aussi le problème numéro 1 du cavalier. C'est un équipement qui est cher, c'est un équipement qui est difficile à essayer quand on est seul, et qui peut soit nous aider dans notre posture, soit au contraire nous contraindre et nous gêner dans notre équitation. Mais c'est surtout un objet qui est emblématique du cavalier, car comme le dit Eugénie, « Dis-moi quelle selle tu as et je te dirai quel cavalier tu es ». Alors choisir sa selle, finalement, ça ne se fait pas à la légère. Si on met de côté l'image, il y a évidemment de la technique, il y a du budget et il y a surtout deux personnes à habiller, un cavalier et son cheval. Comment choisir sa selle selon sa discipline ? Est-ce qu'une bonne marque suffit à faire une bonne selle ? Qu'est-ce que l'ergonomie équestre ? Comment peut-elle aider un couple cavalier-cheval à être en harmonie ? Est-ce que c'est réservé à l'élite sportive ou est-ce que tout le monde peut en bénéficier ? Et question subsidiaire, l'amortisseur, faut-il en mettre un ou au contraire le laisser dans son placard ? Autant de questions auxquelles Eugénie va répondre dans cet épisode. C'est donc parti pour l'épisode « C'est pas sorcier » d'adapter son matériel équestre. Bonjour Eugénie.
Bonjour Angélique.
Merci de pouvoir me consacrer du temps pour notre interview. Je pense que tu vas être bien occupée pendant cette semaine, donc vraiment merci pour ton temps.
Avec plaisir, merci à toi.
J'adorerais que tu me parles de selle. Je pense que c'est un petit peu ta zone de confort en plus. J'aimerais d'abord te connaître toi, Eugénie. Alors du coup, comment tu en es arrivée à faire des selles ? Est-ce que tu es cavalière ? Est-ce que tu as un cheval ?
Alors, bon, déjà, je ne fais pas de selle. Ça, c'est le premier truc. Enfin, je ne les fabrique pas. Je les design, conçois, je ne sais pas trop comment on peut dire.
Oui, mais je comprends l'idée. Tu ne fais pas, mais tu conseilles, on va dire.
Oui, je conseille, j'oriente, je choisis, je mesure, je fais exécuter et j'affine.
Ok.
J'affine le travail d'adaptation. Donc en fait, l'idée, c'est marrant qu'on soit ici aujourd'hui parce que tout a commencé à Equitalion il y a 10 ans.
C'est vrai. En plus, c'est un anniversaire.
C'est ça. C'est l'anniversaire de comment j'en suis arrivée à faire ce métier et comment je suis là aujourd'hui de l'autre côté de la barrière. Parce qu'il y a 10 ans, j'étais simple visiteuse ici. Et il y a 10 ans, j'ai acheté mon premier cheval qui est pas un format classique.
Qui s'appelle comment ?
Qui s'appelle Billy. Enfin, il s'appelle Ubis Nobilis Ponte, mais dans la vraie vie, on l'appelle Billy. Mmh. Et qui est un Welsh Cob qui a aujourd'hui 11 ans. Et qui...
Donc tu l'as eu quand il avait 1 an.
C'est ça. Je l'ai choisi quand il avait 3 semaines. Enfin, je l'ai rencontré et choisi quand il avait 3 semaines. Et je me le suis offert avec mon premier salaire mon premier boulot juste après les études. C'était l'accomplissement d'un rêve, quoi, comme beaucoup de cavaliers.
Ouais, bah, tu m'étonnes, ouais.
Et mais comme tous les cavaliers qui acquièrent leur premier cheval, on veut tout bien faire. On veut que tout soit absolument parfait parce que c'est la prunelle de nos yeux, parce que machin. Donc, j'habitais à Lyon à l'époque. Et l'objet selle, c'est quelque chose qui m'a toujours vachement intéressée. Enfin, qui m'a toujours beaucoup plu. Après, je suis pas très manuelle. Je suis surtout pas ni patiente ni minutieuse quand je fais quelque chose de mes mains. Et j'ai tendance, en fait, à très bien commencer et à tout envoyer valdinguer au bout de pas trop longtemps. Donc c'est pour ça que je me suis jamais lancée dans la fabrication, parce que ça aurait donné des catastrophes et je pense que je me serais beaucoup frustrée.
Des choses inachevées en tout cas, ouais.
Ouais, voilà. Et donc du coup, voilà, je m'étais toujours dit que quand j'aurais mon cheval, j'aurais une belle selle sur mesure, que je me ferais plaisir avec ça et que voilà. Et donc en fait, je suis venue à Equitalion pour rencontrer les différents selliers à l'époque, qui sont tous peu ou prou les mêmes acteurs qu'aujourd'hui, hein, ça n'a pas beaucoup évolué de ce côté-là. Et je me souviens être allée les voir et leur avoir demandé, voilà, j'ai un cheval et je voudrais une selle sur mesure. Comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que ça se passe? Comment... Voilà.
Comment quoi? Aidez-moi.
En gros, voilà, je voudrais placer mon argent quelque part dans quelque chose qui ira bien à mon cheval et moi. Quelles sont les garanties que je peux avoir chez vous? Et les réponses qu'on m'a données m'ont pas du tout satisfaite, en fait. On m'a dit, oh, bah, c'est surtout important pour le cavalier, mais nos selles, elles vont à 90% des chevaux, vous en faites pas. Et je me suis dit, mais...
C'est impossible.
C'est pas question que c'est impossible, c'est... Je m'apprête à vous filer 3000 balles. À l'époque, pour moi, c'était énorme. Enfin, ça reste énorme aujourd'hui. Hein,
ah mais oui, oui.
C'est une somme considérable. Et à l'époque, 3000 balles, c'était le prix qu'il fallait pour une selle. Aujourd'hui, on est plutôt vers 4500.
Oui, on en reparlera de ça, d'ailleurs.
Ouais, mais bref, à l'époque, c'était juste énorme. Et je me suis dit, je suis désolée, mais c'est pas suffisant pour que je vous file l'équivalent de ce qui était pour moi 2 mois de salaire à l'époque. Je suis prête à les mettre, mais pas avec aussi peu de garantie. Et surtout, pas sans explication, pas en ne comprenant pas pourquoi je devrais vous filer ce pognon.
Mmh.
Et donc, j'ai commencé à faire des recherches et à poser des questions. Et à l'époque, je travaillais dans un domaine complètement différent.
Et tu faisais quoi, par curiosité?
Je travaillais dans les transports en commun. Le marketing est dans les transports en commun.
Effectivement, rien à voir.
Ouais, c'était super chouette. J'ai beaucoup appris. C'était une très bonne expérience professionnelle, mais ça a impliqué d'être dans des bureaux et je suis pas patiente pour ça non plus.
Le côté marketing t'a servi, j'imagine.
Ça m'a beaucoup aidée. Marketing, communication, de toute façon, c'est mon cœur de métier à la base. J'ai fait des études littéraires, donc j'ai appris à manier les mots et à organiser une pensée, voilà, à écrire. Et c'est comme ça, d'ailleurs, c'est par l'écriture, en fait, que je suis arrivée à ce que je fais aujourd'hui, puisque en France, il y a 10 ans, il n'y avait pas de documentation sur le sujet.
Ouais, très, très peu.
C'était très compliqué de trouver des données, de trouver des infos sur comment ça marche.
Plutôt en anglais, à l'époque.
Voilà. Ouais. Et comme je suis assez bonne en anglais... je suis allée voir sur ce qui se faisait sur le web en anglais. Et j'ai commencé à traduire des articles que j'ai mis sur un blog en me disant bah, je suis sûrement pas la seule clampine à me poser des questions, donc allons-y. Et en fait...
Le blog, c'est saddlefitting.fr, je crois.
C'est ça. Il existe toujours.
Il existe toujours et il est très très bien.
Alors, il existe toujours. En fait, à l'époque, c'était pas ce blog-là. C'était un autre blog que j'ai plus maintenant, qui s'appelait Dressagement Vôtre.
Ah oui,
je crois.
Lui, je le connais pas. Mes excuses.
C'est pas grave, il existe plus, donc il y a plus rien à trouver dessus, donc okay. Voilà. Mais j'avais publié certains articles dessus, donc entre fin 2009 du coup et fin 2009 et fin 2011 à peu près.
Ok.
Et fin 2011, donc il y a 8 ans, je reçois. J'avais déjà bien avancé dans mes recherches et j'avais commencé vraiment à me faire une idée de ce que je voulais. J'avais déjà, avec mes salaires de l'époque, du coup, acheté et revendu plein de selles que j'avais testées, que j'avais démontées, que j'avais testées sur plein de chevaux différents pour essayer de comprendre comment ça marche et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et j'avais été voir des cavaliers avec, je les avais fait monter pour voir ce que ça faisait et tout. Enfin, je faisais mes tests dans mon coin, en fait, voilà, en engageant.
Sur ton temps libre en plus.
Ouais,
du coup.
Ouais. Et en engageant mes propres finances et vraiment en essayant un max de trucs, quoi. Et j'ai reçu un mail d'une nana qui s'appelle Hélène, je crois. Je me rappelle plus très bien pour le coup. Je sais juste qu'elle avait un Connemara, donc aussi un poney, qui était très très compliqué à seller et qui était devenu vraiment rétif. Très, très douloureux à la selle. Et elle était tombée par hasard sur un article que j'avais écrit, pour lequel j'avais pas vraiment fait de publicité, mais en faisant des recherches, elle était tombée sur mon blog qui s'appelait Dressagement Vôtre, donc qui était même pas orienté sur
le généraliste.
C'était juste on répond à des questions. Et qui m'a écrit en me disant, voilà, en lisant vos articles, j'ai pris conscience du problème de mon poney et j'ai réglé ces problèmes. Il sautait plus et maintenant il est d'accord pour sauter à nouveau. Et je pense que ce que vous faites, c'est bien et il y aurait quelque chose à faire. Et elle m'a vraiment encouragée.
Oh, je trouve ça génial, quelqu'un qui t'écrit comme ça pour te donner des nouvelles, pour te dire
c'est ça,
ça a marché.
Et de but en blanc. Et je savais, enfin, c'était pas quelqu'un que je connaissais, quoi. Ouais. Si je me rappelle bien, elle devait habiter en Bourgogne.
Ça t'a touchée,
en fait,
du coup?
Ça m'a vachement touchée et ça m'a fait me poser beaucoup de questions parce que c'était une époque où je me cherchais beaucoup professionnellement. J'avais arrêté les transports en commun et le marketing parce que l'ambiance énorme boîte, c'est compliqué à gérer. Et ça allait pas dans mon tempérament du tout. Et donc, ouais, du coup, j'avais enchaîné plusieurs postes, mais...
Sans conviction, quoi.
Ouais, voilà. À ce moment-là, je crois que je bossais dans une agence de pub. c'était pas mon truc, quoi. Clairement pas mon truc. C'était des gens bien, hein. Ils étaient intéressants, ils étaient gentils. C'était pas, encore une fois, c'était pas une grosse agence de pub. J'avais essayé justement la PME pour essayer d'avoir un truc à taille plus humaine, mais...
Bah, c'était pas encore ton domaine, quoi.
C'était pas ça. Ouais. C'était pas ce qu'il me fallait, et voilà. Et donc, du coup, de là est née l'envie de créer le blog vraiment dédié à ça, donc qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle sadulfitting.fr, que j'ai ouvert début janvier 2012. Et ça a tout de suite marché, mais un truc de taré, quoi. Et je m'y attendais pas du tout, mais vraiment pas. Et après, de fil en aiguille, j'ai rencontré des gens, un premier saddlefitter anglais qui était paumé dans le milieu de la France, qui m'a écrit en me disant... les gens ici, ils comprennent pas ce qu'on fait. De toute façon, on parle pas français, donc on est un peu dans la mouise en plus. Est-ce qu'on pourrait se rencontrer, faire quelque chose et tout ? Donc on a fait donnant-donnant, en fait. Moi, je lui ai fait de la pub, ce qui a permis de lancer sa carrière en France, parce que clairement, il était dans la
banqueroute.
Glenn Asker. Okay. Et lui m'a donné des notions de fitting qui sont mes bases, hein, que j'utilise encore aujourd'hui. Bon, j'ai beaucoup, beaucoup évolué depuis et on est... plus franchement d'accord sur les manières de travailler, mais voilà, à l'époque, sur du donnant-donnant, moi je lui ai redonné une carrière professionnelle et lui m'a permis de lancer la mienne.
Ouais, super.
Donc c'était, voilà, je trouvais que c'était un bon
accord. Une belle rencontre au bon moment.
Ouais, voilà, ça tombait bien. Et puis donc dans le courant de cette année 2012, j'ai ensuite, j'ai travaillé pour une sellerie, mais avec qui ça s'est pas très très bien passé à l'époque, pour faire leur site internet. Ce qui m'intéressait, c'était de pouvoir profiter de leur atelier, de pouvoir voir comment ça se passait à l'intérieur, mais ils m'ont pas trop donné accès à ça, donc d'accord. Je devais faire du site internet, des tours et des photos, mettre en ligne des catalogues, bon, ça me passionnait pas vraiment. Mais dans la foulée, j'ai rencontré une autre sellerie indépendante, qui était dans le coin où j'habitais à l'époque, à Valence, dans la Drôme, et Cavalcade, pour ne pas les citer, et... quand j'ai décidé de me lancer, ils m'ont fait confiance. Et sans eux, là pour le coup, j'aurais pas pu devenir professionnellement ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a passé un deal, ils commandaient les selles d'essai dont j'avais besoin et ils me les mettaient à disposition. Moi, je vendais des selles pour leur compte quand les clients que j'allais voir en fitting avaient besoin d'acheter une solution matérielle.
Okay.
Et en échange, ils me rétribuaient avec un versement de commission. Et donc, on a créé un donnant-donnant comme ça. Et à l'époque, moi, ça me paraissait tout naturel de faire ça. Je me suis rendu compte par la suite qu'il y avait beaucoup de selleries qui voulaient absolument pas fonctionner comme ça et qui voulaient le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière, le tiroir caisse et qui comprenaient pas pourquoi ils devaient rétribuer quelqu'un. Tant pis pour eux, j'ai envie de te dire. mais bon, moi, j'ai eu beaucoup de chance avec Cavalcade à l'époque. Et dans le même temps, j'ai rencontré Wilfried Kettmann qui était à l'époque directeur commercial de Steuben France, qui cherchait lui aussi à relancer sa marque. Et... Les selles qu'ils vendaient étaient adaptées au processus de fitting, au sens où on pouvait adapter l'arçon, les matelassures, on pouvait faire plein de choses dans la fabrication qu'on ne pouvait pas faire avec tous les selliers français avec qui j'avais essayé de travailler, qui me disaient non, nous on ne travaille pas sur l'arçon, on travaille que sur les matelassures, on fait de la mousse, la laine ça sert à rien. Et moi j'étais là, moi dans tous les tests empiriques que j'ai fait, ça colle pas.
Ouais. Tu sens toujours cette incompréhension du saddle fitting, parce que j'ai l'impression que c'est quand même des métiers cloisonnés entre le saddle fitter, le sellier, le bourrelier harnacheur et finalement le commercial et alors, puis le client. J'ai l'impression que chacun est un petit peu dans son tunnel et que personne se parle vraiment. En tout cas, chacun essaye, mais il n'y a pas d'harmonie.
En fait, moi, c'est pas comme ça que je vois les choses. C'est-à-dire que je sens les choses comme ça chez certaines personnes qui comprennent pas.
Ouais.
Qui comprennent pas qu'en fait le saddle fitting, c'est le métier du commercial en sellerie. C'est-à-dire qu'un bon commercial en sellerie devrait être saddle fitter.
Ok.
Sauf que...
ça fait sens, en tout cas.
Le processus de saddle fitting, donc de conseil... pour moi, c'est, en fait, le saddle fitting, c'est juste de l'ergonomie du matériel d'équitation. C'est pour ça que ma société, aujourd'hui, s'appelle ergonomie équestre. C'est... on ne fait pas de l'ergonomie du cheval, on fait de l'ergonomie du couple qui pratique l'équitation, cavalier-cheval. D'où la volonté de dépasser cette notion de juste équin pour aller vers quelque chose de plus large, on est soit dans le conseil d'une solution ou dans l'optimisation d'une solution déjà existante. En fonction des cas, on va choisir l'un ou l'autre, l'idée étant de pouvoir tout faire.
Ouais.
Le problème aujourd'hui, c'est que la plupart des commerciaux sont rattachés à une seule maison et qu'ils n'ont pas la possibilité de choisir les possibilités techniques. Ça fait deux fois possibilités.
Si la solution n'existe pas chez eux, c'est
ils n'ont pas d'option de paramétrage. Ouais. Il y a des commerciaux en sellerie qui sont très intelligents et qui le comprennent bien et qui savent dire en voyant un couple, que ce soit le cavalier ou le cheval qui est compliqué à habiller, ils savent reconnaître leurs limites. Le problème, c'est que la plupart du temps, aujourd'hui, les commerciaux qui sont rattachés à une boîte, soit ont la pression du chiffre et donc n'ont pas la possibilité matérielle de reculer, parce que sinon ils perdent leur taf, en gros. Donc c'est dur pour eux éthiques avec cette pression-là, ou alors, et ça c'est beaucoup plus grave à mon avis, c'est que les boîtes qui les embauchent ne les forment pas. C'est-à-dire qu'ils vendent des trucs qui ont des énormes impacts sur la santé du cheval et du cavalier, sur leur performance, et dont ils ne maîtrisent pas la portée. En gros, on leur donne des fusils, en leur disant « tiens, appuie là », mais on leur explique pas que ça peut tuer du monde, quoi. Et enfin, c'est un peu extrême comme comparaison, mais
ouais,
on n'en est pas loin.
Je comprends la comparaison, et en même temps, tu vois, je me dis « ouais, c'est peut-être très réducteur, donc je m'excuse par avance, mais tu vois, pour moi, un commercial, j'ai pas l'impression derrière qu'il cherche à être technicien. J'ai l'impression qu'il pourrait vendre n'importe quoi, et... Enfin, je crois qu'ils mesurent pas bien l'impact, enfin, sur plein de choses, même sur le portefeuille. J'ai vraiment l'impression qu'ils sont plus dans la vente que dans le conseil, en fait.
Pour moi, tout est une histoire de formation. Enfin, j'en reviens toujours à cette citation de Victor Hugo qui disait que, en gros, si les écoles étaient plus remplies, les prisons seraient un peu plus vides.
Mais elle est très bien, elle est très bien.
Pour moi, c'est vraiment une question d'éducation et de formation. Et d'ailleurs, aujourd'hui, donc, je fais un peu de formation professionnelle. Alors, j'en fais pas beaucoup pour plusieurs raisons, mais la formation professionnelle que je propose, il y a notamment des commerciaux en sellerie qui viennent la faire. Pourquoi ? Parce qu'ils
c'est un début déjà. Ouais.
Bah, en fait, parce qu'ils se rendent bien compte que les bagages qu'on leur donne ne sont pas suffisants. Et après, charge à eux de décider si les produits avec lesquels ils travaillent peuvent être adaptables ou pas. Parce qu'il y a ça aussi comme composante, c'est-à-dire qu'en fonction de la philosophie de conception de la selle, des matériaux qui sont employés, on va pouvoir avoir une politique d'adaptation ou pas. C'est-à-dire que le sur-mesure, ça implique la possibilité d'avoir des variables. Mmh. D'avoir des variables dans les dimensions d'arçon, d'avoir des variables dans le choix des matériaux, d'avoir des variables dans les formes, dans les coupes, dans tout un
même
tas de...
Même dans le temps aussi, je me dis, t'achètes une selle à un moment donné, mais peut-être que 2 ans après, il faut déjà changer, quoi.
Bien sûr. En fait, c'est pour ça que c'est extrêmement compliqué comme métier d'être sellier. Et les selliers fabricants aujourd'hui, surtout les petits artisans qui sont en indépendant, moi, je les trouve extrêmement courageux. La raison pour laquelle, malgré toute mon expérience, je ne me suis pas encore risquée à l'aventure de la fabrication, c'est que pour le coup, je mesure extrêmement bien les impacts...
Ouais, les contraintes, les
difficultés. Les contraintes, que ce soit pour moi ou pour le cavalier. Parce qu'on travaille sur du vivant, donc on travaille sur des corps en évolution perpétuelle. Et quelque part, une selle qui serait trop sur mesure, c'est quelque chose de figé, c'est quelque chose qui n'évolue pas, c'est quelque chose qui a une technicité dont on est vraiment loin de mesurer. Encore aujourd'hui, même avec tous les moyens scientifiques qui existent, on est encore loin de mesurer les réels impacts et les réelles possibilités qu'on a avec ça. Donc on commence à en avoir des idées, mais...
Mais je pense que c'est le début encore, on n'a pas encore tout exploré.
Et c'est quelque chose qui en est assez balbutiement, parce qu'en fait on est dans une phase de transition entre une activité traditionnelle et quelque chose qu'on est en train de faire essayer d'évoluer vers une activité de pointe, mais où finalement les innovations telles qu'elles sont menées maintenant n'aboutissent à rien. Parce que franchement, toute l'utilisation de des matériaux dits intelligents, du carbone, du Kevlar, des trucs comme ça, franchement, ça sert à rien.
C'est marketing, pour le coup.
C'est que du marketing. Très clairement, ça n'apporte rien en termes d'ergonomie pure. Vraiment rien. Là, aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec une sellerie qui, depuis 40 ans, ne travaille que sur des méthodes traditionnelles. Et en termes de performance, ça reste encore ce qui marche le mieux. Parce que c'est un sellier que je suis allée voir précisément parce que... dans sa galerie de portraits, il a une palanquée de champions olympiques et je voulais comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'en fonctionnant avec des matériaux traditionnels, il fait aussi bien, voire mieux,
que tous les nouveaux
avec des matériaux soi-disant révolutionnaires, innovants et tout. Enfin, pour moi, c'est une course à l'échalote. Et en fait, la vraie intelligence, elle est d'analyser la situation et de se dire où est-ce que je vais placer mes billes pour avoir... non seulement un produit, mais aussi un service qui soit performant. Et c'est là, pour reprendre la discussion là où on l'avait laissé par rapport aux commerciaux, qu'à mon avis, on ne place pas la notion de service là où il faut. C'est-à-dire qu'on place la notion de service sur « Ah, t'as cassé ton filet, je vais te le remplacer » à « Ah, t'as cassé ton filet, je vais te le réparer ». Et donc, il y a quelque chose à faire évoluer.
Oui, une philosophie derrière n'est pas prête aujourd'hui. Mais qui tend à le venir. Moi, je le sens aussi dans mon métier à moi, que les gens ont de plus en plus la volonté, pour plein de raisons, environnementales, personnelles, etc., de réparer. Et je pense effectivement que le service sur les selles est vraiment au stade zéro, en fait, qu'il faudrait tout faire. Mais je pense que les possibilités sont bien, tu vois. Il y a le leasing, je crois, sur les voitures. Pourquoi pas faire le leasing sur une selle ? Pourquoi pas se dire qu'il y a quelqu'un qui viendra tous les X mois checker ? Même les pièces de remplacement, je vois, on pète un contre-sanglon, c'est la misère. Des fois, il faut complètement démonter la selle pour réparer cette pièce-là. Tu te dis, c'est quand même dommage, c'est juste une sangle qui a pété, quoi.
Ouais, c'est pour ça. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont en évolution. Il y a beaucoup de fabricants qui font des trucs très, très intéressants. Alors malheureusement, c'est pas les plus glamour en termes de marketing. Et
c'est lesquels? On peut les nommer ou pas?
Oui, on peut. Pour moi, aujourd'hui, vraiment, ceux qui font le meilleur travail, c'est le groupe Bates. Donc, ceux qui font aussi les selles WinTech.
D'accord.
C'est,
J'ai une selle WinTech. Je l'ai achetée il y a 2 semaines. Je suis trop contente.
Bah, écoute, pour moi, en termes de rapport qualité-prix, de compréhension du marché, d'intérêt technique du produit, ils sont parmi les leaders. Il y a leur concurrent direct, qui est le groupe Fairfax, qui a développé toutes les selles Thorogood et Kenton Masters, qui sont très bons aussi. Donc chacun, évidemment, en fonction des matériaux, en fonction des formes, en fonction des coupes qu'ils choisissent, parce que ça reste des productions en grande série, c'est du prêt-à-porter adaptable. Ces gens-là ont compris certaines choses. Il y a Prestige qui fait des trucs très bien, et Replus, c'est très très bien aussi.
Prestige, ce que je trouve fort, et peut-être que tu pourras nous expliquer comment ça marche, c'est le concept de pouvoir, après coup, réchauffer ton arçon et le remodeler un petit peu. Ça, je trouve ça super. Alors, je sais pas du tout comment ça marche, mais j'adore l'idée.
Bah, l'idée, c'est que c'est un matériau, c'est un plastique. Hein.
Mais comment tu chauffes du coup? Parce qu'il y a tout le cuir et toute la mousse.
En fait, tu chauffes avec des infrarouges.
D'accord.
Donc, c'est un plastique qui réagit à des températures assez basses qui font que le cuir, lui, ne chauffe pas et ne subit pas en fait des températures trop élevées. Mais on a aussi des arcades qui sont modifiables à froid, ça va être le cas chez Passier, chez Kiefer, chez Sommer par exemple, donc des fabricants allemands, chez Steuben aussi, mon ancien partenaire commercial, qui eux sont capables de retravailler les angles de l'arçon. Maintenant, pour avoir beaucoup travaillé avec tous ces fabricants-là, et la raison pour laquelle aujourd'hui je me suis retournée vers quelqu'un qui fabrique des arçons qui ne sont pas modifiables, c'est que je me suis rendu compte que quand on cherchait vraiment de la précision technique et du très haut niveau, on travaille pas que sur des notions d'angle, on travaille sur des notions de forme. Et Kunti, ils ont ça qui est très très fort, c'est que eux travaillent non seulement sur la forme de l'arcade de Garo, en plus de travailler sur l'ouverture, mais ils travaillent sur tout l'arçon. C'est-à-dire que c'est tout l'arçon qui est fabriqué à la main. Et c'est les, à mon sens, enfin à ma connaissance, c'est les seuls en sellerie classique et dans une distribution assez large, donc qui sont pas que des petits artisans, donc qui ont la possibilité de travailler à une échelle un peu plus grande, c'est les seuls à le faire.
Parce que moi, je connais les arçons moulés en plastique. En gros, c'est une sorte de moule à gaufre pour vraiment vulgariser le truc, où tu injectes du plastique dedans et puis tada, ça ressort et
c'est ça,
et
tu laisses sécher et c'est bon, c'est prêt.
Et maintenant, du coup, t'as la sellerie là dont tu parles, Kunti, c'est
ouais.
Ça? Ils le font à la main, c'est-à-dire que c'est quand même du plastique ou c'est en bois à l'ancienne?
En fait, c'est à l'ancienne, c'est en bois. C'est des arçons bois lamelés collés. Moi, la raison pour laquelle je me suis retournée
Je partage juste aux auditeurs du coup qu'en fait, avant, les arçons étaient faits en bois et de mémoire, on tendait des sangles qui se ressemblent à des ceintures de sécurité, c'est ça, au niveau du siège.
Ouais.
Et que du coup, en fait, ce savoir-faire là, de pouvoir faire du lamellé collé, c'est-à-dire qu'on prend vraiment des petites lamelles de bois qu'on va venir entasser, ça permet de donner une forme en 3D. Là où on n'est pas du tout sur de la planche de bois ou sur de l'usinage. On vient vraiment créer couche par couche la forme.
C'est ça. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que les selliers français, aujourd'hui, utilisent toujours ces arçons-là. Alors, eux les achètent directement à l'arçonnerie française. C'est-à-dire que très souvent, le métier d'arçonnier et le métier de sellier ne sont pas le même.
Ça, c'est dommage, du coup.
En fait, pour moi, la selle, c'est l'arçon. Donc, tous les selliers qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'adapter leurs arçons... et qu'ils adaptent la selle uniquement avec les matelas sûrs.
Alerte.
Ils font le travail qu'à moitié. Pourquoi? Parce que, pour revenir sur des notions d'ergonomie, vraiment, pour moi, la selle, si on parle en termes médicaux, c'est une orthèse, donc c'est une structure qui va rigidifier, compenser, assister à la fois le dos du cheval et l'équilibre du cavalier, puisque c'est nos deux grands... C'est nos deux grandes problématiques, c'est comment stabiliser l'équilibre du cavalier sur un cheval en mouvement dont le dos est relativement fragile et qu'il faut aider à porter le poids du cavalier. L'orthèse, la structure rigidifiante, c'est l'arçon. Donc si l'arçon n'est pas précis, la selle ne l'est pas. Le reste de la selle, c'est que de l'habillage, entre guillemets. Mais la vraie mécanique de précision, elle est sur l'arçon. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui est fascinant pour moi.
Comme une horloge. Enfin, t'as dit mécanique de précision, du coup, ça m'a éveillé le mot montre, mais c'est la montre suisse, par exemple, avec tous ces petits mécanismes. Tout est nickel chrome et ça marchera des années.
C'est
par rapport à une montre premier prix. Oui, t'as l'heure, mais pas longtemps et pas comme il faut. Enfin, entre guillemets, pas comme
c'est
il faut.
C'est ça. Et elle peut être super, super jolie, super fancy vue de l'extérieur.
Pour autant, c'est pas entre guillemets le vrai temps.
Exactement. Et c'est pour ça, moi, c'est aussi ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réussir à comprendre comment, avec des matériaux nobles, donc des matériaux naturels, du bois, alors
tu parlais de
la laine, tu parlais des sangles. Les sangles traditionnelles, c'est du chanvre, chanvre tissé.
Comment est-ce que ça, tu vois.
En fait, le nylon, on va l'utiliser notamment pour fixer les contre-sanglons parce que c'est indéformable. Mais le chanvre, il a une légère déformation qui est possible et c'est ça qui donne l'aspect vivant à la selle. Et aujourd'hui, par exemple, quand on parle de selle synthétique, les gens se réfèrent à l'habillage extérieur. Donc pour eux, une selle synthétique, c'est une Wintech.
Ouais, ouais, ouais.
Mais pour moi, une selle synthétique, c'est... ça peut être une Dovuku à 4 500 €, si l'arçon dedans est en synthétique. Et de toute façon, à partir du moment où on est sur des matelas sur en mousse, on a une selle synthétique. Donc les gens qui achètent une selle à 4 500 ou 5 000 €, mais qui a des composantes synthétiques à l'extérieur, achètent une selle synthétique. C'est pas, elle n'est pas entièrement composée de matériaux nobles.
Oui, mais comme tu dis, les gens se réfèrent à l'habillage, en fait.
Exactement. Et c'est la différence entre une très jolie montre vue de l'extérieur, mais avec une mécanique à l'intérieur qui est pas très précise et qui est pas très bien câblée, et une montre à quartz avec un mécanisme très très précis et qui,
dans son sens, est très classique, en fait.
Oui, c'est ça, qui est très simple, qui est très sobre, mais qui par contre est d'une précision redoutable. Le vrai luxe, c'est ça. Le vrai luxe, c'est pas ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ce qu'il y a dedans. C'est toute la philosophie, c'est toute la connaissance qu'il y a derrière, c'est tout ce qui a été développé pour en arriver à ce niveau de précision. Et vu de l'extérieur, en fait, pour moi, plus une selle, elle est habillée, plus une selle, elle est travaillée de l'extérieur,
plus c'est louche.
Plus c'est louche.
Finalement, Hermès, par exemple, ils ont un look assez sobre, plutôt dans la tradition.
Et... Hermès, ils sont très traditionnels. Après, ils travaillent avec des panneaux en mousse. Hein. En France, il n'y a personne qui travaille avec des panneaux en latex. Alors peut-être que le maître sellier de chez Hermès est encore capable de faire des matelassures en laine ou même des matelassures en crin, comme ça se faisait sur les selles d'Amazon du début du siècle, par exemple. Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils travaillent. Ben, en fait, c'est beaucoup plus simple de faire éditer, même en découpe numérique, des matelassures en grande série que d'aller rembourrer manuellement des panneaux pour avoir la densité précise, les qualités de confort égales sur l'ensemble de la matelassure pour le cheval. Alors c'est sûr que on parle vraiment de matériaux là, donc la mousse et la laine, l'une a des qualités que l'autre n'a pas et inversement. C'est-à-dire que la mousse amène plus de stabilité à long terme. Pour les gens qui ont des dissymétries, ça permet d'éviter les compressions trop marquées d'un côté. Mais pour le cheval, vraiment, avec toutes les mesures qu'on a pu faire et les observations qu'on a pu mener et tout ça, ça amène une qualité de confort pour le muscle qui est largement supérieure. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de la capacité des matériaux à absorber les chocs. Mais ça, c'est vrai sur le CSO. Mais en dressage, c'est pas ça qu'on cherche, par exemple. On va chercher un matériau qui va transmettre du lien, qui va transmettre de la précision. La mousse, c'est pas précis.
Moi, l'endurance, par exemple, tu me conseillerais quoi en termes de selle? Qu'est-ce qu'il me faudrait, moi? Parce que moi, en gros, je galope pendant des heures et j'essaie de pas gêner le cheval. Mais en soi, notre effort, il n'est pas du tout le même non plus.
Non. L'endurance, pour moi, ça reste un peu un mystère. C'est une discipline que je connais pas très bien parce que j'ai jamais pratiqué. Je travaille surtout avec les cavaliers qui évoluent dans des disciplines que je pratique aussi.
Plutôt classique, du coup, tu fais...
Ouais, moi, j'ai eu une formation de cavalière d'obstacles à la base. J'ai grandi en Normandie, donc j'avais pas trop le choix, à vrai dire. Et après, je me suis beaucoup intéressée au dressage parce que c'est là qu'on va chercher le plus de précision sur l'équilibre du cheval, le lien de l'assiette, la locomotion, comment est-ce qu'on connecte l'avant-main et l'arrière-main par le travail du dos. Bon, les bons cavaliers d'obstacles le font aussi. Tout ça, c'est du travail de plat, mais les cavaliers de dressage sont beaucoup plus facilement sensibiliser à ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma clientèle principale, ça reste le cavalier de dressage à la base. Après, j'ai le cavalier de complet qui comprend vraiment la notion de...
Mais il fait un peu de dressage en même temps, lui.
Oui, voilà. Et qui comprend la notion de couple et la notion de bien-être du cheval. Et le marché qui reste le plus difficile à pénétrer, ça reste le marché du CSO d'amateur.
C'est vrai ? Ah, j'aurais pas cru.
Non, non, c'est très compliqué. Pour plusieurs raisons. C'est là que les acteurs traditionnels sont positionnés. Donc tout est verrouillé à coup de contrat plus ou moins... discutable, on va dire. Et en même temps, c'est peut-être là où la notion de connexion au cheval est peut-être la moins marquée et où on est le plus dans le cheval de consommation. Alors ça m'ennuie un peu de dire ça parce que c'est une discipline à laquelle je tiens énormément et que j'aime beaucoup, et j'aime beaucoup travailler avec des cavaliers d'obstacles conscients. Mais c'est en même temps, c'est la discipline dans laquelle j'ai l'impression que les mentalités en termes de conscience sont les moins éveillées et les moins évoluées.
De l'extérieur aussi. Pour moi, c'est la discipline de tous les contrastes où tu as vraiment des gens qui sont très éclairés sur le bien-être et en même temps, comme tu dis, il y a des gens qui sont très consommateurs.
Je saurais pas dire, bon, on va pas trop dériver sur la discipline du saut d'obstacle. Je saurais pas trop dire pourquoi est-ce que le saut d'obstacle amène à cette surconsommation, que ce soit dans le brassage des chevaux. Ça serait intéressant. Je sais pas s'il y a des études qui ont été menées sur la durée de vie moyenne d'un cheval après son achat selon les disciplines. Ouais, la durée de vie moyenne d'un cheval après son achat, quoi, entre le moment où on l'achète et le moment où soit on le réforme, soit on le revend. Mais bon, enfin, j'en connais beaucoup, quoi. Je travaille quand même de plus en plus avec les cavaliers d'obstacles. Hein. Faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est vraiment. Ils sont en train de s'éveiller, mais par rapport aux autres disciplines, ils sont un peu à la bourre.
C'est pas eux les meneurs, quoi.
C'est ça. Et c'est, ça reste le marché le plus difficile à pénétrer, encore une fois. Mais voilà. Après, bon, par rapport à ta question sur l'endurance, ouais, c'est un milieu que je contrôle pas très très bien, je t'avoue. Il y a plusieurs freins pour moi à ça. Le premier, c'est que souvent, les chevaux changent physiquement énormément au cours de la saison.
Oui, complètement.
Et qu'on passe d'un cheval très étroit à un cheval très large et inversement. Et ça demande de la part du cavalier qui veut avoir un matériel ajusté très précisément à chaque fois, un grand investissement financier. Et ça saoule les cavaliers de faire repasser le sellier pour régler la selle à chaque fois. Et j'ai du mal à trouver justement une selle qui réussisse à rester parfaite, en fait. Alors, j'ai des cavaliers d'endurance avec lesquels je travaille, avec qui ça se passe très bien, mais c'est des gens qui font un effort financier. Et la plupart du temps...
Ceux que je connais qui font vraiment ça à fond, ils ont plusieurs selles.
Voilà. La plupart du temps, pour un seul cheval, il faut plusieurs selles.
Alors moi, déjà... en amateur, je t'avoue que j'ai pris une adaptable.
Voilà. C'est l'autre en fait, c'est l'autre possibilité. C'est de réussir à travailler avec ce qui existe sur le marché en selles adaptables. Maintenant, les matériaux qu'on va favoriser généralement dans les disciplines olympiques où le corps des chevaux est soumis à beaucoup de torsions, beaucoup d'incurvations latérales, c'est-à-dire que par exemple on tourne très serré à un barrage, la cage thoracique du cheval effectue une latéroflexion très marquée, il change son équilibre entre montant, descendant, plongeant, étiré, rassemblé, donc sur toutes les disciplines où le cheval saute et dans le dressage, c'est ce qu'on va rechercher, c'est la disponibilité optimum du corps du cheval. Et à l'inverse, en endurance, on reste sur des chevaux qui vont rester très longitudinaux avec un dos qui va fonctionner tout le temps sur le même mode. Quelque part, on est presque plus sur un... Enfin, je m'étais posé la question, hein. On est presque plus sur un mode qui va être comparable à ce qui va se passer en équitation de travail dans les transhumances. Pas en équitation de travail quand on est sur de la maniabilité ou sur des épreuves
mais sur le long élan,
du long élan. Et donc, je m'étais posé la question de savoir si justement partir d'une adaptation d'un arçon western avec une très très grande portance et pas mal de rigidité pour avoir une fixation sur le dos du cheval qui soit plus stable par rapport à un arçon très léger, très souple et des matelassures qui se déforment beaucoup, ce serait pas plus pertinent. Mais voilà, j'ai pas les moyens, j'ai pas le matériel, j'ai pas la gamme de produits qui va là-dedans. Et très souvent, les cavaliers d'endurance en France, en tout cas, venant du classique, ils ont du mal à envisager de passer sur autre chose.
Alors moi, je me suis posé la question, hein, très sincèrement. Par contre, tu vois, sur les selles, je voulais une selle de randonnée à la base, mais plutôt légère, parce que je les trouve très très lourdes, les selles de rando. Et j'ai pas trouvé des choses assez courtes pour finalement aller à mon pur sang arabe.
C'est ça le problème. C'est ça aussi le problème, c'est que les pur sang arabes sont assez compliqués à équiper, qu'on a en plus chez les pur sang arabes une donnée constante qui est le dos court, mais on va avoir des garrots très étroits et très saillants et d'autres garrots qui vont être au contraire très larges et très noyés. De toute façon, c'est aussi stupide de dire on va créer une selle pour pur sang arabe que de dire on va créer une chaussure pour la femme française. Je veux dire, on est en chose du 35 au 42 en moyenne.
Ça n'a rien à voir avec la taille, le poids.
C'est ça, et on parle même pas de notion de pied plat, pied creux, pronation, supination, antériorisation, postériorisation. Tout ça, on n'en parle pas.
Donc, ça sent la technique là derrière, ça y est.
C'est ça. Bah, de toute façon, le choix d'une selle, c'est comme le choix d'une chaussure. Surtout quand on fait de la longue distance, c'est hyper technique.
Même pour la randonnée, du coup. Parce que là, j'ai parlé de mon cas d'endurance, mais même pour la randonnée, il faudrait faire hyper attention parce que le cheval le porte longtemps.
Mais c'est... Voilà. C'est de toute façon, les cavaliers d'endurance et les cavaliers de randonnée qui ont généralement les pires blessures de selle. Hein. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui montent le plus, enfin qui restent le plus longtemps le cul posé sur leur cheval, quoi.
Oui, si ça va pas quelques minutes quand tu fais du saut d'obstacle, ça peut passer.
C'est ça. Sur un tour de CSO qui fait 1:30 avec 20 minutes de détente, bof.
Alors quand tu fais de la rando et que tu pars 8 heures, au bout d'un moment, ouais, ça fait mal et la cloque, elle apparaît, quoi.
Exactement.
Si je reviens sur le saddle fitting, du coup, en lui-même, est-ce que tu as des belles histoires à raconter de transformation avant-après ?
Oh, j'en ai plein. J'en ai vraiment plein. Alors bon, les raconter comme ça, sans voir les chevaux, c'est très compliqué, mais il y a des transformations immédiates, parce que parfois, la selle, c'est juste le grain de sable dans le rouage qui bloque toute la mécanique. Typiquement, on va avoir des chevaux qui, juste en un essai de selle, sont capables de se révéler du tout au tout. Je me rappelle, par exemple, de cette jument, c'était un essai catastrophique. Par les conditions météo. Au mois de janvier, au Pays Basque, il pleuvait des seaux et des seaux et des seaux.
Et là, tout de suite, ton métier est moins cool.
Ouais, non, c'est pas très très drôle. Disons, quand on a 3 caouets de rechange à mettre par-dessus les anoraks parce qu'en plus, il caille.
Là, c'est carrément
dans la voiture,
pas marrant.
Il faut prévoir les temps noirs et tout. Non, c'est un peu chiant. Mais bon. Il pleuvait des seaux, il faisait super froid. Et on a cette cavalière de dressage qui nous avait appelé, qu'on est allé voir. et qui était montée avec une selle qui était catastrophique. La gouttière était tellement serrée qu'on passait à peine deux doigts à l'intérieur, donc la jument elle pouvait pas monter son dos en fait. Elle était complètement bloquée. Juste elle était paralysée, elle avait pas de connexion entre l'avant et l'arrière main, et pourtant la cavalière était très très valable, elle montait vraiment très très bien, et la jument était une très très bonne jument. Mais elle pouvait rien faire, elle ne pouvait rien faire physiquement. Et on lui a fait essayer plusieurs selles jusqu'à trouver la selle dans laquelle la cavalière était bien et dans laquelle la jument était bien. Et comme la selle, c'était le seul truc qui les bloquait, elles ont pu enchaîner des mouvements de dressage magnifiques. Et elles nous disaient, les changements de pied, c'est vraiment ma bête noire, quoi. Ça passe jamais, mais c'est normal, parce que le changement de pied, ça suppose une inversion du mécanisme diagonal du cheval dans le galop et donc une inversion des mouvements de torsion de la colonne vertébrale.
Donc
si la colonne vertébrale est bloquée et que les oscillations au niveau des apophyses vertébrales ne peuvent pas se faire, juste ça fonctionne pas. Et donc là, on trouve une selle dans laquelle tout le monde est bien et elle nous a enchaîné une série de changements de pied. Elle s'est arrêtée, elle avait les larmes aux yeux, quoi. Elle était là, mais ça m'est jamais arrivé. Et je pensais que ma jument, elle pouvait pas le faire. Si, la jument, elle savait le faire, en fait. Elle savait le faire, c'est juste qu'elle ne pouvait pas. Il y avait un blocage. Et donc, le nombre de gens qui me disent « Ouais, mon cheval, les départs au galop du pas, il sait pas trop les faire. » Ou « Ah, à chaque fois, sur les... »
C'est pas le faire, c'est ça, peut pas le faire.
C'est sur les transitions descendantes, à chaque fois, il s'ouvre et il me lâche dans le garrot. Ou il me charge tous ses sauts. Ou j'arrive pas à le garder droit dans les combinaisons, il se décale toujours d'un côté. Ou dans les descentes, il se met en crabe, il arrive pas à rester droit, il est tout bloqué dans les épaules. Et dès qu'on trouve le truc où juste c'était ça qui bloquait...
Oui, en gros, il faut partir du principe que le cheval, lui, il veut faire le mouvement correctement, mais que des fois, il peut pas le faire.
Exactement. Et puis bon, là, on parle de selle, mais...
Peut venir d'autre chose.
Récemment, moi, j'ai fait l'expérience avec une beatfitter qui est venue travailler sur mes chevaux, donc à régler les embouchures et les brides. Bah, moi, il y avait des mouvements que j'arrivais pas à faire à mon cheval. Parce qu'il me lâchait systématiquement dans le garrot sur les transitions descendantes, justement, et je me disais, mais bon, ça vient pas de la selle, donc peut-être qu'il sait pas le faire, et non, ça venait du mort. On a changé le mort, on a trouvé un mort qui lui libérait la langue, il était engagé comme engagé, il arrivait à se soutenir tout seul, et j'avais juste à serrer un tout petit peu les abdos et à ralentir le mouvement de mon bassin, et il passait à l'allure inférieure, et c'était magique, quoi, c'était incroyable. Et après, on a des transformations à plus long terme, on a des chevaux dont on pensait qu'ils étaient foutus, et qui étaient très encellés ou qui avaient des problèmes chroniques et des inflammations, des conflits de processus épineux, enfin des trucs vraiment c'était grave quoi. Et qui en 2, 3, 4 mois de selle adaptée et de travail bien mené, parce qu'à chaque fois il faut bien se dire que c'est pas que la selle, il faut surtout quand le cavalier est un cavalier amateur qui a pas une grosse connaissance, une grosse expérience ou un vrai niveau technique pour assurer un travail correct à son cheval, il faut un encadrement quoi, il faut un suivi ostéopathique, il faut un encadrement par un coach. Mais on voit des trucs des fois, c'est magique. Et la selle c'est une pièce du puzzle. Faut jamais partir du principe que c'est le truc qui change tout. Ça peut être le truc qui change tout, mais c'est à mettre...
Ça fait partie d'un ensemble.
Voilà, c'est à mettre en conjonction avec un ensemble, exactement.
Est-ce que tu as des difficultés, des fois, à faire changer de selle aux gens? Alors, je m'explique, c'est plus au niveau de l'image. On en parlait, il y a plein d'acteurs sur le sujet. Mm-hmm. Du coup, plein de marketing qui va avec et d'images de marque. Par conséquent, des fois, est-ce que c'est difficile pour toi de faire passer le message que cette selle, quand bien même elle est d'une super marque, n'est pas la plus adaptée?
Cette notion de marque, en fait, c'est comme de dire genre... Ah, c'est trop cool, on m'a offert une paire de Louboutin. Bon, ils sont en 41, moi je fais du 37, mais c'est pas grave, je vais les mettre quand même. Ah non, mais c'est complètement con. Enfin, je veux dire, c'est juste débile. C'est pas parce que c'est des Louboutin, même ok, c'est des super chaussures et ça change rien à leur qualité intrinsèque. Ça va pas, point. Donc oui, bien évidemment, ça arrive. Et il y a une cliente un jour, vraiment, on a trouvé une selle, mais c'était parfait, quoi. Son cheval, il arrivait à faire des mouvements, c'était juste incroyable. Et elle était très très bien, elle était très à sa place. Elle disait, j'ai jamais eu autant de facilité à me mettre en suspension au-dessus de mes pieds, mais j'achèterai jamais cette selle parce que c'est d'une marque qu'on connaît pas.
Et là, bug.
Disons que moi, j'ai vraiment, au début, je comprenais pas, et puis presque ça me mettait en colère, quoi. J'étais là, dans l'incompréhension la plus totale, quoi. Et même pas parce que j'allais louper une vente, c'était juste, mais c'est quoi cette réflexion de merde, quoi. Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais chacun place ses curseurs là où il l'entend. Et si lui, ce qu'il cherche, c'est pas la justesse de l'exécution du mouvement et c'est une histoire d'image...
Bah c'est comme ça, quoi.
Mais c'est ça, mais je me rappellerai toujours d'un jour où j'ai vu une nana qui s'était fait tatouer le logo d'un sellier sur l'épaule, quoi.
C'est vrai ?
C'était une photo que j'ai vue passer sur Facebook. Mais le logo en question, il est très très beau, mais ça m'a choquée. Je me suis dit, mais what?
Ouais, moi je porterais pas une marque. Quand bien même ce serait ça. Ma marque, je la porterais pas sur moi.
Mais ouais, non, mais c'est absurde quoi.
J'adore.
Bon, voilà. J'ai beaucoup de mal en fait avec cette notion d'image de marque. En fait, ça rassure parce que c'est un signe visible extérieur, c'est quelque chose qui nous raccroche à une communauté. Genre, dis-moi quelle selle tu montes, je te dirai quel cavalier tu es. C'est très clair, ça marche comme ça. Mais oui, oui, c'est déjà arrivé qu'effectivement des gens me disent. Non, mais ça correspond pas à mon image. C'est, enfin, bon, bah, libre à toi. Écoute, libre à toi. Tu places tes curseurs où tu veux.
J'imagine que les gens qui font appel à toi et qui se rendent compte qu'ils ont entre guillemets maltraité leurs chevaux pendant quelques temps, ils ont quand même beaucoup de culpabilité.
C'est clair.
Comment tu les rassures? Comment tu leur dis d'aller de l'avant?
Bah, moi, je leur dis que le simple fait que je sois là aujourd'hui, ça veut dire qu'en fait, ils ont aucune culpabilité à avoir, que ce qui est fait, qu'on apprend de ses erreurs. Que pour reprendre une très belle formule qu'une de mes amies m'a dit un jour, c'est en se plantant qu'on pousse. Et que, ben, ok, ils ont appris de leur erreur. Maintenant, il faut arrêter de regarder dans le rétroviseur. Il faut regarder ce qui vient devant et qu'il y a encore tout qui a à faire, quoi.
Ça t'arrive souvent, ça, des gens vraiment.
Qui sont dans la culpabilité,
ouais, à fond.
Très, très fréquemment. Bah, parce que, comme je disais en préalable, hein, quand j'ai acheté mon cheval, c'était la prunelle de mes yeux. Et je garde toujours en tête que, quel que soit le cheval avec lequel je travaille, que ce soit un trotteur de réforme acheté 500 balles ou un cheval qui a fait les JO et qui coûte plusieurs millions d'euros, ce cheval, c'est la prunelle des yeux de son cavalier. Quelle que soit sa valeur marchande, en quelque sorte. J'aime pas parler de valeur marchande pour un cheval, mais bon, le monde est ainsi fait qu'on en est là. Mais le cheval sur lequel on me demande de travailler, en fait, les gens me font suffisamment confiance pour me confier justement la santé de leur animal. Et que ce soit un cheval à 500 ou à 500 000, c'est pareil. Et le cheval mérite le même égard. Que ce soit un cheval de club ou un cheval de haut niveau, c'est la même chose.
C'est beau. J'aime beaucoup ta philosophie.
Merci.
J'avais une question après sur les amortisseurs. Mm-hmm. Vaste sujet.
Bah, c'est comme pour les selles. Il y en a des bien conçus, il y en a des mal conçus.
Et il y en a des bien conçus qui ne vont pas avec certaines selles.
C'est ça. Le tout est de toujours garder en mémoire que ce soit, de toute façon, que ce soit l'amortisseur, la sangle, les étrivières, les étriers. On choisit ce qu'on appelle des accessoires en fonction de la selle qu'on utilise. C'est-à-dire que la selle est un préalable au choix de tout le reste. On ne peut pas bien choisir un amortisseur ou une paire d'étriers ou n'importe quoi qui ait un impact technique sur l'équitation, qui soit substantiel, qui ne découle pas du choix de la selle. Parce que la selle, c'est le...
Ça part de là, en fait.
Ouais,
c'est l'origine.
C'est l'orthèse.
C'est le point zéro.
C'est ça, c'est exactement ça. C'est le point zéro. Donc, moi, les amortisseurs, j'en utilise assez fréquemment. Mais en fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que je regarde la selle que j'ai et j'ai choisi plusieurs amortisseurs de plusieurs marques. Pas pour la marque, mais pour la conception, parce qu'une marque, c'est toujours en fait une histoire de conception. C'est-à-dire que la personne qui a inventé une marque, quand elle a mis ça en place, elle avait un concept, elle avait une idée, elle avait une philosophie. Elle a choisi, pourquoi elle a choisi ce matériau-là, pourquoi elle a choisi cette coupe-là. Donc, je regarde la philosophie de la marque. Si ça a été créé pour une raison qui me paraît valable, alors je vais tester le produit pour savoir ce que ça vaut effectivement. Les trucs qui sont testés, enfin qui sont fabriqués pour des mauvaises raisons, généralement je me risque pas à les essayer. Il y a que s'il y a plusieurs clients qui me disent non mais vraiment tu devrais les regarder, c'est vraiment génial, que je vais y accorder un peu d'intérêt. Mais bref, pour en revenir à l'amortisseur, pour moi l'amortisseur il s'adresse surtout au cheval, donc je pars du principe que c'est le cheval qui va choisir. Donc je fais tester au cheval la selle sans amortisseur, la selle avec un amortisseur A, la selle avec un amortisseur B, la selle avec un amortisseur C. Et en prenant par exemple trois petits films de trois longueurs au trot, on est capable de dire, de ramener ça aux sensations que le cavalier a eues en regardant la vidéo. Il peut confirmer son ressenti ou se dire « Ah ouais, moi j'avais ce ressenti-là, mais en fait le cheval, visiblement, il est plus relâché, il est plus détendu ou il est plus contracté, il est plus étriqué comme ça. » Donc on va partir sur la sensation qui est la plus confortable pour le cheval. Il faut se dire que les chevaux, ils sont comme nous, ils ont ce qu'on appelle des préférences matérielles. C'est-à-dire que, bah, comme nous, il y a des gens qui aiment bien la laine, il y en a d'autres qui supportent pas parce que ça gratte. Il y a des gens qui aiment bien le coton, il y en a d'autres qui aiment pas parce que quand ils transpirent, ça pue, etc. etc. Mais les chevaux, c'est pareil. Il y a des chevaux qui sont plus à l'aise avec certains matériaux, il y a des chevaux qui sont plus à l'aise avec d'autres matériaux. Enfin, on en rejoint à la question des matelas sur. Hein. Il y a des chevaux qui sont plus à l'aise avec les matelas sur laine, il y en a d'autres qui sont plus à l'aise avec les matelas sur en mousse, même si généralement, ils sont quand même plus à l'aise avec les matelas sur en laine. Bon, ça, c'est juste une statistique tirée de l'expérience, quoi. C'est même pas une étude scientifique, hein, mais c'est juste un constat. Mais voilà, il y a des chevaux qui vont préférer certains amortisseurs à d'autres.
Et alors, tu vois, moi, ce qui, entre guillemets, m'embête dans le marché actuel des amortisseurs, c'est que, pour moi, on fait un amalgame entre les amortisseurs qui compensent mm-hmm. et les amortisseurs qui veulent vraiment amortir. Mm-hmm. Est-ce que tu as ce même ressenti? Est-ce que pour toi, un amortisseur doit juste compenser la selle ou, au contraire, doit avoir lui-même une fonction amortissante? Est-ce qu'il faut un peu des deux?
Eh ben, en fait, ça dépend. Pour moi, un amortisseur qui compense, c'est ce qu'on appelle un correcteur. Et un amortisseur qui amortit, c'est un amortisseur. C'est deux objets différents, en fait.
Souvent, c'est sous le même nom. Enfin,
ouais, mais en fait, les deux fonctions peuvent être conjuguées dans le même objet. C'est-à-dire qu'on a des correcteurs seuls, on a des amortisseurs seuls et on a des amortisseurs correcteurs. Le tout est de choisir exactement l'objet dont on a besoin, en fonction de l'analyse qu'on va tirer de l'adaptation de la selle. Et bon, moi je pars souvent du principe de qui peut le plus peut le moins. Donc quand le cheval montre qu'il a besoin d'un amortisseur, je vais orienter le cavalier vers le choix d'un amortisseur correcteur, juste pour si jamais un jour le cheval change parce qu'il s'est blessé, il a arrêté 6 mois pour une tendinite et que du coup il s'est démusclé, eh ben, on a la possibilité de corriger un petit peu sa selle le temps qu'il se remuscle et qu'on doive enlever la correction. Par contre, ce avec quoi je ne travaille quasiment jamais, ce sont les corrections qui sont figées. Je travaille toujours avec des corrections qui sont adaptables, dans lequel on peut utiliser des matériaux différents, dans lequel on peut utiliser des épaisseurs différentes. Parce que le problème d'une correction fixe, c'est que si ça correspond à ce dont on a besoin, tant mieux. Si ça marche pas, bah, c'est parfois pire que mieux, quoi. Donc ça sert à rien.
Question sur le gel, parce que j'ai eu pas mal de questions sur les amortisseurs en gel. Bien, pas bien, qu'est-ce que t'en penses ?
Je vois pas trop l'intérêt, très honnêtement.
Moi, je trouve ça lourd, en fait.
Bah, en fait, le problème, c'est que la plupart du temps, c'est mal coupé. Donc déjà, ça va pas. D'un point de vue ergonomique, c'est pas bon. Après, l'utilisation du matériau gel en tant que tel, j'y ai personnellement jamais trouvé vraiment d'intérêt. Après, comme l'objet me plaît pas à la base, c'est vrai que je me suis pas beaucoup concentrée dessus. Je sais juste que quand on a les espèces de méduses là, ça peut permettre de stabiliser une selle sur un cheval qui a tendance à la faire bouger. Mais dans ces cas-là, il faut que le gel soit à nu et que la selle, elle grippe, elle soit posée directement dessus. Ça fait un peu comme la matière autofixante des bas là, tu sais, truc qui gratte les cuisses.
Le silicone.
Ouais, voilà. Jusqu'à présent, j'y ai pas vu beaucoup d'intérêt. Mais...
Et alors, une question qui a rien à voir, ou presque, avec toi, c'est que je note une tendance quand même à remonter sans selle et à repasser sur les selles sans arçon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, en tant qu'ergonome équestre ?
À partir du moment où on considère que l'arçon, c'est l'orthèse, une selle sans arçon, c'est une non-orthèse. Après, les fabricants de selles sans arçon sont partis du principe que comme c'était l'arçon qui était difficile à adapter et donc qui posait problème, si on mettait pas l'arçon, on n'avait pas de problème. C'est un peu simpliste et réducteur comme façon de voir les choses. Maintenant, très honnêtement, il y a des cas de figure où je vais recommander une selle sans arçon pour des cas où les chevaux sont trop difficiles à habiller avec des solutions prêtes à porter dans le commerce et où les cavaliers n'ont pas forcément du budget pour du très haut de gamme ou pour une utilisation très ponctuelle. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de critères restrictifs, c'est-à-dire qu'on peut très difficilement se mettre en suspension sur les étriers. Donc tout ce qui est équitation un peu sportive, on oublie. Donc on ne saute pas, on ne galope pas en équilibre et tout ça. Et même si je sais par exemple qu'aux États-Unis, les selles sans arçon sont beaucoup utilisées pour l'endurance ou on galope en équilibre, pour le coup.
Après, j'aime pas le concept parce que tu sens vraiment que tout le poids est sur une espèce de petite sangle qui porte la ligne des étriers.
C'est ça le problème.
Tu te dis, c'est quand même pas cool.
Pour moi, c'est ça le problème, c'est que c'est un peu anti-ergonomique de ce point de vue-là. On peut pas les utiliser sur des chevaux qui ont un fort garrot. Très fréquemment, c'est déconseillé pour les personnes qui pèsent plus de 70 kilos. Donc, ça élimine quand même un gros pourcentage de la population adulte, quand même. Donc voilà, c'est des selles dont l'utilisation est très restreinte finalement. Et c'est loin d'être la solution universelle que les fabricants promeuvent.
Donc c'est bien de temps en temps, en gros tu fais la balade du pâté de maison, c'est cool.
Ouais, voilà, c'est... Enfin, il n'y a pas longtemps, une de mes élèves qui allait faire une randonnée chez un cavalier, un professionnel qui est dans les Pyrénées, qui propose beaucoup justement des balades avec des chevaux pieds nus, sans arçon, sans mort, enfin bon, le gros ayatollah du cheval au naturel, quoi. Je pense que beaucoup de personnes auront compris de qui je parlais. Et elle m'a expliqué qu'au bout d'une semaine de rando, il y avait 7 des 10 chevaux qui avaient blessé.
D'accord.
À la selle.
Ouais, parce que c'est pas fait pour. Quoi.
Bah, parce
porter
que c'est
les
pas
sacs,
fait.
Porter
c'est
le
pas
cavalier
fait pour.
C'est pas fait pour sans du garçon, tout. C'est compliqué. Quoi.
Et lui, il a juste dit aux cavaliers que c'était des merdes et qu'ils savaient pas sceller et qu'ils savaient pas monter et que c'était eux qui avaient blessé les chevaux et pas le matériel. Ouais, ça c'est très culpabilisateur pour le coup.
7 sur 10 en plus, ça fait quand même une grosse statistique quand même. Ouais.
Ouais. Disons qu'on est, loin du facteur aléatoire, là, quand même.
Eh bien, écoute, ça marche. Tu étais saddle-fitter, et maintenant, tu es ergonome équestre. Ça veut dire quoi ?
Déjà, je me suis jamais déterminée comme saddle-fitter. Pourquoi ? Parce que je trouve ça un peu pompeux. Les Français savent pas le dire, donc ça m'énerve. D'être saddle-fighter, saddle-fritter, saddle... juste saddle, ça veut rien dire. Je suis une selle, ok, très bien. J'ai appelé mon blog saddlefitting.fr, mais voilà, bon, ok. Du coup, ça me colle un peu à la peau. Sur mes premières cartes de visite, j'avais marqué « conseil en équipement d'équitation ». Et c'est ce que je fais. Pour moi, je fais à la fois du conseil en investissement, je suis personal shopper, c'est-à-dire que j'aide les gens en fonction de « tout est en huit, ma chérie », à trouver leur équipement, tout simplement. Et en fait, à force d'y réfléchir, je me suis dit « bon, techniquement, tout ce qu'on fait, ça relève de l'ergonomie du sport, et on fait de l'équitation, donc c'est de l'ergonomie équestre ». Donc quand il a fallu dire vite à la comptable comment j'appelle ma nouvelle boîte, ergonomie équestre, allez, voilà. Ça a été pas plus compliqué que ça. Simple et efficace, ça dit ce que c'est. L'ergonomie équestre, c'est tout simplement le processus d'adaptation du matériel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils font pas la différence entre j'achète une selle et il y a tout un processus de conseil, de compétences, de suivi, d'adaptation, d'analyse, etc. qui y est rattaché. En fait, ils font pas la différence entre j'achète un cheval, mettons 5000 balles, et derrière, il va me coûter les yeux de la tête, sa race.
En frais veto, quoi.
En frais veto, en frais de pension, maréchalerie, en cours, en concours, en n'importe quoi. Quand on achète une selle, c'est comme quand on achète une voiture. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges à respecter. Un bon conseiller en sellerie. Et c'est en ça, pour moi, que le saddle fitter, le commercial, le vendeur, le n'importe quoi, peu importe comment tu l'appelles, tout ça, c'est juste les mêmes facettes d'un seul et même métier. Et mon but, c'est de réussir à réunir en une seule personne, toutes ces facettes. Et aujourd'hui, il y a une fragmentation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de personne dans les acteurs traditionnels de la sellerie aujourd'hui qui est capable de le faire. Parce que les commerciaux, ils ne sont pas assez formés. Les selliers, c'est des fabricants. Pour récupérer beaucoup de gens qui ont suivi des formations en sellerie, donc de sellier harnacheur, sellier bourrelier, très clairement, ils n'ont aucune formation sur l'ergonomie, sur la prise de mesure, sur l'adaptation du matériel.
Écoute, je l'ai fait. Moi, j'ai fait le truc découverte pendant une semaine. Jamais on m'a parlé de ça. On m'a dit comment couper mon cuir, comment faire mes finitions.
Un an, deux ans de formation, ils n'ont aucune base. J'ai des gens qui ont travaillé chez Hermès pendant plusieurs années, qui viennent me voir et qui me demandent comment on fait. Ils savent exécuter, mais ils ne savent pas analyser le cheval. Ils ne savent pas regarder, ils ne savent pas prendre des mesures. Ils ne savent pas quelle mesure va être pertinente, pourquoi dans la fabrication. Ils savent simplement exécuter. Et en fait, aujourd'hui, par exemple, la formation de Célia Arnacheur, elle forme des ouvriers qui vont être sur des chaînes de montage de selles ou de briderie.
Ils vont apprendre à coudre, à découper.
C'est ça, et il y en a beaucoup qui, au final, terminent chez Hermès ou chez Chanel à fabriquer des sacs à main et pas des selles. Et les commerciaux, ils ne savent pas vendre des selles. Enfin, ils savent remplir un bon de commande, mais ils ne savent pas dire aux gens ce dont ils ont vraiment besoin, ce dont le cheval a besoin. Donc moi, je forme les gens à analyser les besoins. Je forme les gens sur la posture commercial à tenir, parce qu'on est dans un commerce à la fois de biens et de services, mais surtout je leur explique, quand vous achetez une selle ou quand vous vendez une selle, vous vendez un produit, et ce produit, il a un coût qui est de 500 à 5000 euros en gros pour balayer ce qui se fait aujourd'hui sur le marché, mais c'est le prix du produit. C'est comme quand vous achetez une voiture, vous payez la voiture 10 000 balles, mais ça comprend pas les vidanges, ça comprend pas les pneus, ça comprend pas tout ça. Donc voilà, donc vous pouvez après, quand vous achetez le truc, signer un contrat de service qui va avec, mais ces services là ils vont être surfacturés. Ou alors, s'ils sont compris dans le prix de la selle...
C'est que la selle est moins chère.
C'est que la selle, elle est moins chère. Et c'est effectivement ça que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Bon, outre la mauvaise foi, voire le mensonge et honteux de certains commerciaux, hein. Moi, j'ai regardé quelqu'un droit dans les yeux un jour, et je lui demande, mais donc vos selles, elles sont made in France. Il me dit, oui, absolument. Et j'ai retourné la selle, j'ai cherché partout, il y avait marqué cuir bovin français.
Oui, donc le cuir est français, mais le après, cuir est l'assemblage... Français.
La selle n'est absolument pas made in France. Elle est fabriquée ailleurs. Donc le prix de la selle, au final, parce que ce sont des gens qui ne font pas payer les services. Donc mettons que le prix de la selle est de 3600 ou 3800 euros. La selle, en prix de revient, on est sûr qu'elle est en prix de sortie d'usine, elle coûte 800 euros.
C'est les marges du luxe, en fait. Hein. Entre faire x6, x7, c'est souvent ce qui se fait dans le luxe.
C'est exactement voilà. Ça.
Mais le luxe a un suivi. Si ton sac Hermès a un problème, tu retournes en magasin et il te change tout, quoi.
Exactement. Et aujourd'hui, quand les gens me demandent par exemple, mais pourquoi ta selle Kunti, elle coûte 5000 euros? Et pourquoi après, moi, je dois repayer un reflocage, un machin, un truc? Je me dis, parce que la selle, elle est fabriquée de A à Z par une seule et même personne. Elle est fabriquée selon un process artisanal et pas sur une chaîne de montage par des gens qui ne sont même pas selliers. Elle est fabriquée par un maître sellier. Elle est fabriquée avec un arçon qui est fait sur place par un maître arçonnier et pas par un arçon qui sort d'une chaîne de montage. Elle est fabriquée à la main de A à Z avec des matériaux qui sont super... noble. Donc oui, le prix sur l'étiquette elle-même, mais ce qu'il y a derrière en termes de travail, ce qu'il y a derrière en termes de matériaux, ce qu'il y a derrière en termes de connaissances, de suivi, c'est juste pas la même chose, c'est pas comparable, quoi. C'est comme de dire, ouais, bah écoute, je vais acheter une Aston Martin et je vais acheter une Dacia. Oui, bah c'est sûr que tu mets de l'essence dedans, tu changes les pneus, tu mets la clé dans le contact et elle t'emmène d'un point A à un point B. C'est juste pas la même chose, quoi.
C'est pas la même expérience du tout.
C'est pas le même produit. Donc moi, ce que j'essaie de développer, c'est d'une part une expérience service pour le client. À savoir, comme je te disais tout à l'heure, que le client, il achète une selle à 500 ou à 5000, que le cheval, il vale 500 ou 500 000. L'expérience client, elle est la même. Moi, mon truc de référence, c'est la scène du shopping dans Pretty Woman. Je veux que mes clients, ils aient cette expérience-là.
Okay.
Je veux qu'ils se sentent considérés pour ce qu'ils sont. Je veux pas juste qu'ils sentent qu'on est là pour leur argent. Je veux qu'ils sentent qu'on est là parce qu'on veut prendre leur cheval en considération. On veut les prendre, eux, en considération. Et c'est pas parce qu'ils font une balade le dimanche qu'ils ont pas le droit aux mêmes égards que quelqu'un qui, tous les dimanches, fait des parcours à 145. C'est tout.
Si on veut trouver ton site, on peut aller sur Internet ?
Oui, tout à fait. Ergonomie-acast.fr, il y a une page Facebook, il y a un compte Instagram.
Et on peut te trouver et te demander des conseils, des prestations ?
Absolument, absolument. Et surtout, on peut les demander aux gens que j'ai formés et qui travaillent maintenant en collaboration avec moi, sous l'étiquette d'Ergonomie Équestre. C'est-à-dire que c'est un réseau de référence, c'est un peu comme un label. Ce sont des gens qui ont accès aux produits que j'ai sélectionnés après des années d'expérience, qui sont de différentes marques, comme ça on n'est pas bloqué dans une seule représentation, et qui, avant de vendre des produits, vendent un service. C'est-à-dire que si votre selle, elle a simplement besoin d'un petit amortisseur pour être vraiment bien adaptée, ils vont pas vous faire changer la selle.
Ils vont vendre l'amortisseur.
Ils vont vendre l'amortisseur qui ira bien, et ce sera tout.
Y en a partout dans toutes les régions ?
Non, pas encore. J'ai pas envie de chercher à couvrir la France d'un seul coup. Pourquoi ? Parce que je préfère être sûre des gens que j'ai sur le terrain. Les gens avec qui je travaille, les gens que j'ai sélectionnés pour me représenter, pour représenter notre image et notre concept et notre philosophie, ce sont des gens en qui j'ai confiance et dont je sais qu'ils vont faire le travail comme moi je l'aurais fait. Il n'y en a pas partout, mais quand il y en a un,
il est bien.
Vous êtes sûr que c'est un bon.
Et bien du coup, allez le voir, ce site ergonomie-equestre.fr.
Absolument.
Cette question, je la pose à tous mes invités et ça va être du coup le mot de la fin. Si je te dis lien cavalier-cheval en un mot, le premier qui te vient à l'esprit, ce serait...
Bah, la selle.
La selle. Facile.
Très simple.
Eh bien, écoute, c'est sur ce mot qu'on va se quitter. Merci vraiment pour ton temps, Eugénie. Ça a été un moment super. J'espère que pour les auditeurs, ça a été pareil. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui.
Mais merci de ton invitation et puis promène-toi bien dans le salon.
Merci beaucoup.
Hello à nouveau. C'est la fin de notre épisode « C'est pas sorcier » d'adapter son matériel équestre. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris quelque chose avec Eugénie sur un équipement qui est très cher aux yeux du cavalier, la selle. J'en profite pour vous rappeler ici que vous pouvez recevoir gratuitement mon guide sur les principales notions du saddle fitting en vous inscrivant à la newsletter du blog j'entraînemoncheval.com. Si cet épisode vous a plu, mettez-lui 5 étoiles ou mettez 5 étoiles au podcast ou un like ou un commentaire. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou me proposer des idées de personnalités équestres à interviewer, rendez-vous sur la page Facebook J'entraîne mon cheval ou sur Instagram @j'entraîne mon cheval. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine. À bientôt !